voilà, là on est derrière une des galeries d'aquarium d'eau de mer. Donc notre eau de mer, on l'a préparée au sous-sol. Et je vous disais donc qu'elle était mise en pression pour venir alimenter les aquariums. Donc sur chaque aquarium, vous avez une canalisation comme ça en PVC. Sur la canalisation qui est là. Et vous remarquerez que sur chaque aquarium également, sur cette canalisation, il y a un robinet qui coule. Et donc c'est l'eau de mer qui arrive directement dans les aquariums. Tous les aquariums de la maison, que ce soit au douce ou au mer, sont en goutte à goutte. C'est-à-dire qu'on a un renouvellement perpétuel de l'eau. Le gros avantage, c'est qu'on a une bonne stabilité de notre eau de mer. Et l'autre avantage, c'est qu'on s'affranchit ainsi des changements d'eau. Lorsque vous avez 60 aquariums à vous occuper, si vous êtes obligé de faire des changements d'eau toutes les semaines ou tous les 15 jours sur 60 aquariums, c'est long et fastidieux. Donc on a opté pour les gouttes à gouttes. Donc un goutte à goutte comme ça, ça fait grosso modo aux alentours de 10% du volume tous les mois. Comme vous pouvez le remarquer également, la plupart des aquariums, sauf le premier, ne sont pas couverts. Donc on est soumis à des gros problèmes. On a une assez grosse évaporation. Donc qui dit évaporation dit concentration des sels. Et si on concentre les sels et qu'on rajoute de l'eau de mer, tôt ou tard on devrait être en sursaturation de sels par rapport à la normale et à la vie des animaux. Donc comment fait-on, à votre avis, pour pallier ce problème?
Alors d'après vous,
eh ben, on va aller faire un tour dans le jardin, il fait 3 degrés, tous en short, ça va vous réveiller.
Vous avez eu des cours de chimie normalement, non?
Non, personne. En fait, on prépare notre mer moins salée que celle qu'on veut.
Et c'est le chef qui après tu poseras la question. Essaye de répondre.
C'est assez logique en fait. On prépare notre mer aux alentours de 25 grammes de sel par litre. Et comme on évapore ici, si on prépare à 25 grammes de sel par litre en bas, on a une évaporation ici, on concentre. Et ici, on met entre 30 et 35 grammes de sel par litre. Et avec le goutte à goutte compense l'évaporation et on a des taux de sel à peu près constants. Je dis bien à peu près constants, parce que ce n'est pas une vérité absolue. Il suffit qu'il y ait un goutte à goutte qui se dérègle pour qu'on ait une légère dérive. Donc, même si on le sait, ceci n'empêche pas de faire des relevés et des mesures au moins une fois par semaine pour corriger les éventuelles dérives qu'il peut y avoir. Mais globalement, c'est assez stable et on a des taux de salinité aux alentours de 30 à 35 grammes de sel par litre dans les aquariums. Donc, je vous parle de grammes par litre. Vous connaissez une autre technique pour mesurer le taux de sel contenu dans un aquarium? Non, personne. Si je vous parle de densité, ça vous évoque quelque chose? Au niveau des aquariums. Donc, il faut savoir qu'en eau de mer, on peut mesurer la salinité de deux façons. Soit, comme je vous disais, en parlant de grammes de sel par litre, comme lorsque vous allez à la mer, la Méditerranée aux alentours de 35 à 36 grammes de sel par litre, l'Atlantique est un peu moins salé, mais on peut parler de densité. Une eau de mer, c'est de l'eau douce plus un sel dedans. Donc c'est une eau qui est plus lourde que l'eau douce. Donc en eau de mer, il faut être aux alentours de 1024 en densité. 1024, c'est un rapport. C'est le poids d'eau de mer sur le poids d'eau. Le poids d'un litre d'eau de mer sur le poids d'un litre d'eau douce. Un litre d'eau douce fait aux alentours de. Fait 1 kg. Un litre d'eau de mer va faire 24 grammes. Donc 1 kg, il est 24 grammes. Ok? C'est clair? Ça, c'est des valeurs qu'il faut connaître. En eau de mer, c'est aux alentours entre 30 et 35 grammes de sel par litre à 25 degrés, ce qui correspond environ à 1024 en densité. Il faut savoir que la densité varie en fonction de la température. Par contre, il faut regarder dans les bouquins, je ne sais plus dans quel sens elle varie. Donc, on a parlé de l'eau de mer. Ensuite, pour un aquarium d'eau de mer, on va y mettre des poissons et de plus en plus, les gens veulent y mettre également des coraux. Les coraux, ce sont des animaux symbiotiques pour la plupart. Tout le monde connaît le mot symbiotique?
Oui, on l'a vu normalement. Est-ce qu'éventuellement, puisque vous l'avez vu en biologie, est-ce que vous pourriez définir rapidement ce que c'est qu'une symbiose? Alors, allez. J'ai pas entendu.
Ils s'entretiennent l'un l'autre.
Les coraux, ce sont des animaux symbiotiques. Donc, il y a le corail, qui est l'animal constitué de polypes. Chaque polype est en unité fonctionnelle. Et à l'intérieur des tissus du polype, il y a des micro-algues qu'on appelle des zooxanthelles, qui sont hébergés dans le polype. Donc là, on a l'association polype zooxanthelle. Mais en contrepartie, la zooxanthelle, en exposant ses pigments à la lumière, va faire la photosynthèse et va apporter un certain nombre de nutriments au polype. Donc des glucides, des protéines et compagnie. Donc là, on parle bien de symbiose et donc d'apport réciproque et pas de... Donc c'est bien une symbiose. Okay. Donc pour que cette symbiose fonctionne bien en aquarium, il faut éclairer puissamment les aquariums. Parce que les coraux symbiotiques, lorsque vous regardez une carte, se situent essentiellement dans la zone tropicale. Donc entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne. Une des particularités de cette zone, c'est qu'elle est fortement éclairée et elle a un éclairage qui est de l'ordre de 12 heures par jour environ. Un peu moins lorsqu'on s'approche des tropiques, mais pile 12 heures de jour et 12 heures de nuit au niveau de l'équateur. Donc il faut essayer de reconstituer la même chose en milieu confiné comme ce qu'est un aquarium. Donc on va éclairer, nous ici, on va éclairer 13 heures par jour. Et donc on aura une extinction des aquariums pendant 11 heures. Avec un éclairage puissant pour bien favoriser la photosynthèse pendant la durée d'éclairement. Donc comme ce que vous voyez, c'est que tous les aquariums sont éclairés avec 3 HQI. 150 watts chacun pendant 16 heures. Vous remarquerez également qu'il y a deux ampoules différentes sur les HQI. Il y a deux ampoules blanches et une ampoule bleue. Donc, les ampoules blanches sont là pour apporter de la lumière et faire ressortir la couleur des poissons. Et la lumière bleue est essentiellement là pour les coraux et pour les zooxanthelles, parce qu'on est dans un spectre de couleurs que les zooxanthelles vont apprécier pour la photosynthèse. On n'éclaire pas en vert parce que c'est vraiment la couleur la plus néfaste pour la photosynthèse. Donc on va plutôt éclairer en bleu. On pourrait éclairer en jaune. L'inconvénient du jaune, c'est que la couleur qui ressort est très très moche d'un point de vue visuel. Donc on a parlé de la lumière, on a parlé de l'eau, ensuite il faut parler de la filtration. Vous voyez la place qu'on a dans nos galeries, donc on a été obligé d'opter pour la filtration la plus simple possible. Je dis bien la plus simple, je ne dis pas la plus économique. La solution la plus simple qu'on ait trouvée, c'est que l'aquarium se filtre lui-même. Et comment on a réalisé cette filtration? Quelqu'un a une idée regarder les aquariums, essayer de me trouver comment l'eau se filtre dans les aquariums. Alors effectivement, il y a les écureuils qui participent à l'épuration. Donc les écureuils vont essentiellement enlever tout ce qui est composé phénolé, protéines du milieu. Un écumeur qui marche bien, voilà, ça fait dans le volet quelque chose de très foncé, généralement nauséabond. Et plus c'est foncé et plus ça sent mauvais, mieux c'est pour l'aquarium. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également quelque chose directement dans les aquariums qui participe à la filtration de l'aquarium.
Pardon ?
Non,
pas les bactéries.
Pas les
bactéries.
Pas les bactéries. Les bactéries, oui, mais indirectement. Non. Non. Donc, si je vous parle de pierre vivante, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Donc en fait, l'aquarium se filtre grâce aux pierres vivantes qu'on a mis à l'intérieur pour constituer le décor. Les pierres vivantes, ce sont des morceaux de récifs coralliens qui sont arrachés lors des cyclones, des tempêtes et compagnie, et qui se retrouvent dans les zones cutanées, qui sont ramassés et qui sont très riches en bactéries de toutes sortes. Donc en fait, ces pierres vivantes remplacent des éléments de filtration. C'est extrêmement poreux puisque ça résulte de la fabrication de récifs par les coraux. C'est de la pierre calcaire, donc ça, en même temps ça apporte du calcium dans l'aquarium. Et comme je vous disais, c'est extrêmement poreux, donc l'eau pénètre et traverse ces pierres tout doucement et est filtrée par les bactéries qui se trouvent en surface et en profondeur de ces pierres vivantes. Tout à l'heure, je vous parlais des nitrates. Il faut savoir que les nitrates ont tendance à s'accumuler dans les aquariums puisque c'est un produit terminal. Le cycle d'azote, c'est ammonium, nitrite, nitrate. Ok ? Ça, vous l'avez vu ? Les nitrates, il y a deux façons de s'en débarrasser. Soit une façon mécanique en faisant des changements d'eau, donc on enlève 50 ou 100 litres d'eau, on va enlever autant de nitrates, on remplace par de l'eau neuve, exemple de nitrate. Une autre solution, c'est une action chimique, c'est de transformer ces nitrates en azote atmosphérique via des bactéries. Mais ceci peut se faire uniquement en conditions anaérobies. Et ces conditions anaérobies, on va les trouver au cœur des pierres vivantes. L'eau qui circule au contact de la pierre vivante et qui traverse les pierres vivantes va progressivement s'appauvrir en oxygène. Et donc, au cœur des pierres vivantes, on a des bactéries qui sont en conditions anaérobies. Tout le monde connaît le mot anaérobie ?
Normalement, oui.
Oui, non. Non ?
On l'a vu.
Pardon ? C'est quand c'est privé d'oxygène. Les conditions aérobies, ce sont les conditions telles que nous, on a besoin. On a besoin d'oxygène pour vivre. Les conditions anaérobies, c'est lorsqu'on est en milieu pauvre où il n'y a plus d'oxygène. Donc au cœur des pierres, il n'y a plus d'oxygène parce que l'oxygène a été consommé par les bactéries qui se trouvaient avant d'atteindre le cœur des pierres. Mais il y a des organismes, et notamment des bactéries, qui sont capables de vivre sans oxygène, qui trouvent d'autres moyens de trouver de l'oxygène. Elles ont besoin d'oxygène, bien évidemment, mais elles ne vont pas le chercher directement au contact de l'oxygène. Et donc, elles peuvent le trouver notamment via les nitrates. Les nitrates, c'est NO3. En NO3, on a trois atomes, on a trois atomes d'oxygène. Donc elles vont prendre ces atomes d'oxygène et donc relarguer de l'azote atmosphérique. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a moins de nitrates dans nos aquariums que dans nos cuves de préparation d'eau de mer, parce que les nitrates sont consommés par les bactéries qui se trouvent au cœur des pierres vivantes. Ceci, un gros avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de cuves annexes pour filtrer notre eau. Le gros inconvénient, c'est que les pierres vivantes, ce sont des pierres qui viennent nécessairement de zones tropicales, qui viennent, lorsque c'est bien fait, de morceaux prélevés dans la nature, mais de façon non invasive et non destructive. Il faut savoir que les gens qui ramassent les pierres vivantes Ce sont souvent dans des atolls. Ils vivent, ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Ils ont parfois du mal à vivre. Et lorsque nous, on leur demande d'être vivants, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des baramines, ils vont prendre de la dynamite, ils vont aller détruire les récifs pour nous fournir en carrément. Donc ça, c'est des conditions qu'il ne faut pas suivre. Et donc, il faut être sûr que les terres vivantes qu'on ramasse sont les terres vivantes ramassées dans des conditions saines et non destructives. Donc après, ça sera à vous de trouver des fournisseurs de pierres et compagnie qui font ça en respectant l'écologie des récifs. Au niveau des tropiques, l'eau est rarement à 15 degrés. Elle est plus souvent aux alentours de 25-26 degrés. Donc, il va falloir qu'on chauffe l'eau des aquariums. Donc, idem, pour chauffer l'eau, c'est plus facile de chauffer l'eau que de la refroidir. Ça tombe bien. Donc ici, on la chauffe avec des résistances classiques, hein, des thermoplongeurs, que vous avez certainement vu. Bref, ce sont des résistances, donc elles sont réglées à 25 degrés. Donc c'est pas, ça c'est aussi une grave erreur que beaucoup de gens font. C'est en été, lorsque la température monte, ils vont avoir tendance à éteindre leur résistance. Ça sert à rien, parce que maintenant toutes les résistances ont un thermostat qui est avec. Donc si vous demandez à la résistance de vous fournir l'eau à 25 degrés, si en été, les conditions font que votre eau va être à 27 degrés, la résistance ne va pas se déclencher. Donc ça ne sert à rien d'éteindre. C'est même plus dangereux qu'autre chose. Parce qu'en été, en coupant votre résistance, le risque, c'est que lorsque les conditions vont devenir normales, on oublie de rebrancher la résistance et l'eau va refroidir. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Ça vous paraît clair? Donc il vaut mieux toujours laisser brancher en expliquant aux gens que le thermostat est là pour leur sécurité. Et lorsqu'on a des volumes qui commencent à atteindre 700 ou 800 litres ou plus, il vaut mieux multiplier les résistances de plus faible wattage plutôt que d'en mettre une seule grosse. Nous, ici, ce sont les aquariums qui font 700 litres et on préfère utiliser deux résistances de 150 watts aucune seule de 300 watts. Pourquoi? Pardon? Voilà, parce que si les résistances fonctionnent, le thermostat fonctionne, c'est un bilame. Un bilame, c'est deux petits contacts. Lorsque la température baisse, le contact se fait, le courant passe, donc la résistance chauffe. Et lorsque la température atteint la consigne, le bilame se relâche. Donc le courant ne passe plus. Et la résistance s'arrête. Mais les bilanes, c'est souvent qui restent collés. Donc un bilan qui reste collé va court-circuiter le thermostat. Et donc même si vous lui demandez 25 degrés, si le bilan reste collé, la résistance va continuer à chauffer. Et comme il n'y a plus de thermostat, ça va chauffer jusqu'à 30-35 degrés. Et 35 degrés, c'est la mort assurée de tout ce que vous pouvez trouver dans l'aquarium. L'intérêt d'utiliser deux fois 150 plutôt qu'une 150, c'est que si il y a une 150 qui reste collée, on va s'en rendre compte avant une catastrophe plutôt qu'une 300 watts. Une 300 watts qui reste collée la nuit, vous revenez le matin, tout est mort. Une 150 watts qui va rester collée la nuit, vu le volume, elle n'aura pas eu le temps de surchauffer et de faire tout crever. Il y aura eu une augmentation de la température, mais elle ne va pas excéder 27 ou 28 degrés. Et là, vous me dites, c'est pas normal, j'ai demandé 25, pourquoi j'ai 28? Vous vérifiez votre matériel et vous vous rendez compte que vous avez une résistance qui marche plus. Donc les gens vont vous dire, oui, mais vous m'incitez à acheter deux trucs alors que je peux avoir un truc moins cher. Après, c'est à vous d'avoir le discours que je viens de vous tenir et de lui dire, deux sécurités valent mieux qu'une. À vous de savoir si il vaut mieux investir 15 euros supplémentaires dans une résistance et s'assurer de la survie de ces poissons plutôt qu'une heure à distance à 25 euros et perdre des poissons qui en valent 60 ou 75 à cause d'une montée de température. Il faut qu'on perde des poissons parce que l'eau est trop chaude. Donc après, on a parlé des pierres vivantes, de l'éclairage. Il y a un autre appareil qu'on peut utiliser et qui est relativement utile en eau de mer, ce sont les UV. Donc chaque aquarium possède son propre UV. À quoi sert un UV ? Allô ? À quoi sert un UV ?